On est aujourd'hui le lundi 23 janvier et on est le Kohar. On est la force du mois de Tevet et d'une manière tout à fait providentielle, je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès. Une grande partie du cours parlera aujourd'hui de la notion de Kohar, la notion de force comme vous allez le voir. En tous les cas, on continue le cours d'hier. On avait prévenu qu'aujourd'hui on ne lirait pas parce qu'on avait déjà suffisamment lu hier. Et on était resté hier sur la question fondamentale, à savoir qu'est-ce que c'est la Shrina finalement. Et pour mieux comprendre ce qu'est la Shrina, on avait posé une question. Si la Shrina, comme c'est généralement traduit faussement, mais je vais me servir de la fausse traduction pour mieux comprendre quelle est la vraie, si l'on traduit Shrina faussement par présence divine, alors il est absolument clair que ça ne veut strictement rien dire, puisque Dieu se trouve partout. Il est partout dans ce monde. Il n'y a pas un endroit où on peut dire qu'il est plus là qu'ailleurs. Et donc comment le verset peut-il dire « Vasul mikdash veshachanti betochan » Vous me ferez une demeure dans laquelle je résiderai. D'ailleurs, on a expliqué hier que c'était finalement aussi l'étonnement du roi Salomon. Au moment où le temple est construit, lui-même s'étonne. Comment est-il possible? Comment peut-on imaginer? Il pose la question pour mieux nous faire comprendre qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, n'imaginez pas que Dieu se trouve ici dans le sens de présence. Parce que si c'est ça, le monde entier ne suffit pas pour sa présence. Et on avait même expliqué hier que, d'après nos maîtres, c'est pas que Dieu se trouve partout, c'est qu'en vérité, c'est nous qui nous trouvons en lui. Où mais comme Moshel Olam, disent nos maîtres, le monde, l'univers se trouve en lui. Mais c'est pas lui qui se trouve dans le monde. Donc, Shrina ne peut pas vouloir dire présence, dans le sens il est partout, mais fait allusion bien sûr à tout à fait autre chose. Et ce à quoi ça fait allusion, on en a déjà parlé de nombreuses fois et on va le réexpliquer aujourd'hui, et surtout à partir de textes magnifiques. En vérité, la Shrina, c'est l'endroit de la connexion avec Hachem. Combien de fois on a donné l'exemple d'une pièce comme la nôtre, qui peut être éclairée. L'électricité, fondamentalement, elle est partout. Elle est dans la pièce, elle est à l'extérieur de la pièce. L'électricité existe en tant que telle. Mais il n'y a qu'un seul endroit de la pièce où je peux me connecter à l'électricité, c'est en appuyant sur l'interrupteur. Là où on a mis l'interrupteur, ou là où je veux brancher un lampadaire, je mets la prise. Maintenant, il n'y a aucune raison de dire que l'électricité se trouve plus à l'endroit de la prise qu'ailleurs, parce que si on avait voulu, on aurait pu mettre l'électricité ailleurs. Fondamentalement, potentiellement, l'électricité est partout. C'est une force qui peut être amenée partout. Mais pour x, y raison, on a décidé que c'est à cet endroit-là que tu te connectes et pas ailleurs. Ce qui veut dire que la véritable traduction du mot « Shrina » n'est pas « présence », mais « connexion à cette présence ». Bien évidemment, Hachem est partout. Bien évidemment, il remplit l'univers tout entier. Et plus encore, comme on l'a déjà expliqué, je l'ai réexpliqué ce matin, même ça, c'est une erreur de dire qu'il se trouve partout. Nous nous trouvons en lui, et ce n'est pas lui qui se trouve en nous, mais il n'y a que des endroits particuliers où la connexion est possible avec cette présence. C'est ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina est l'interrupteur qui va permettre une connexion entre l'homme et le divin. Alors bien sûr, il va falloir se poser la question, et c'est tout le but du cours d'aujourd'hui. Et ça signifie quoi la connexion? Ça se traduit par quoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a connexion? Comment je peux savoir que je suis connecté? Bien qu'avec l'exemple de l'interrupteur, on a oui plus ou moins un début de réponse. Et comment tu sais que tu as appuyé sur l'interrupteur et non tu as posé uniquement ta main sur le mur? C'est que si tu poses ta main sur le mur, même si tu appuies sur le mur, tu vas rester dans l'obscurité. Et si tu appuies même légèrement un petit coup de pouce sur l'interrupteur, tout s'allume. Donc, si on prend l'exemple de l'interrupteur, l'exemple de la connexion, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre être connecté ou ne pas être connecté, comme n'importe quel appareil qui marche avec de l'énergie. En ce qui concerne le divin, la question se pose. Si l'exemple est juste, est véritablement juste, mais comment va se manifester en moi la connexion? Comment je vais savoir que je suis connecté? Parce que je crois, parce que je le dis, parce que je le fantasme, parce que je l'illusionne? Comment je vais savoir que je suis connecté? Dit d'une autre manière, comment je peux savoir que je suis en contact avec la Shrina? Alors avant de répondre à cette question qui est tout le cours d'aujourd'hui, revenons d'abord sur ce que j'explique de manière beaucoup plus formelle. Il y a donc un lieu fondamental du contact l'interrupteur mondial qui permet à la lumière d'Hachem d'apparaître, cet interrupteur mondial s'appelle comment ? Le temple. Donc le monde est complètement dans l'obscurité depuis la destruction du temple. C'est exactement ce que nos maîtres nous disent lorsqu'ils affirment que depuis le Chorban Beit HaMikdash, le monde se trouve dans la nuit. C'est la raison pour laquelle il compare l'exil à la nuit. Le monde est passé complètement dans l'obscurité la plus noire depuis que le temple a été détruit, tout simplement parce que plus personne ne peut appuyer sur l'interrupteur, puisque l'interrupteur est fichu en l'air. Je précise une chose absolument extraordinaire et combien, on pourrait dire de cette manière, la technologie nous permet de comprendre des notions extrêmement subtiles. On pourrait dire au niveau de la vérité plus spirituelle, plus mystérieuse, plus abstraite. Et grâce aujourd'hui à la technologie, on peut comprendre des choses qui peut-être il y a 100 ou 200 ou 300 ou 400 ans, seulement des esprits extrêmement affinés pouvaient capter, mais en tous les cas pas des gens comme nous. Et j'explique. Vous savez qu'on a une loi folle, que très sincèrement on ne peut pas comprendre véritablement jusqu'à aujourd'hui, qui nous dit qu'à l'endroit du temple, à l'endroit où il y avait le temple, la Shrina n'a pas disparu. C'est-à-dire que la Shrina est toujours là, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'aller là-bas sans être guidés, sans savoir véritablement comment s'y déplacer, par des gens qui ont fait des études et qui savent exactement où on peut mettre les pieds et où on ne peut pas mettre les pieds. C'est la raison pour laquelle aussi beaucoup interdisent carrément d'y aller, de peur que quelqu'un pense qu'il peut y aller de lui-même et se tromper, aller à des endroits où on ne peut pas aller. Mais en tous les cas, tout le monde est d'accord qu'il y a des endroits sur le Har HaBayit, sur le mont du Temple, et d'ailleurs c'est la majorité du mont du Temple, où on ne peut en aucun cas aller, parce qu'aujourd'hui on est tous en état d'impureté, puisqu'on a tous été au moins une fois été dans un cimetière, et on ne peut pas, jusqu'à la vache rousse, on ne peut pas se purifier de ce genre d'impureté, ou d'autres formes d'impureté qu'on peut avoir contractées des milliers de fois sans s'en rendre compte, puisqu'on étudie plus ces lois-là, puisqu'elles ne nous concernent plus malheureusement aujourd'hui. Et donc, tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi ? Exactement comme à l'époque où le temple était construit, parce que de la même manière que quand le temple est construit, tu ne peux pas aller là-bas parce que tu ne peux pas rentrer ou faire rentrer de l'impureté là-bas, exactement de la même manière aujourd'hui. Alors la question se pose, il n'y a quand même plus le temple. En plus, d'après ce que je viens d'expliquer, il n'y a même plus d'interrupteur. La réponse est extraordinaire grâce à cette explication, on pourrait dire fondée sur la technologie. Si j'ai un problème dans l'interrupteur, si le bouton est cassé, ou si pour X raison il y a un fil qui est déconnecté, c'est vrai que la pièce est dans le noir, mais d'un autre côté l'électricité est toujours là, le système est là. Potentiellement, ce qui permet la lumière est là, mais toi, tu n'as pas le moyen de le faire apparaître. Parce qu'il te manque le keli, il te manque l'instrument qui permet à l'électricité de se transformer en lumière. Mais tout est là. Et donc, c'est exactement ce que nous disent nos maîtres. Quand le temple est détruit, alors l'interrupteur est cassé, c'est-à-dire le plastique, la boîte sur laquelle on pose la main est cassée. Mais tout le système électrique est encore là. Ce qui veut dire que, justement, pour nous bien nous faire comprendre que le système est là, c'est simplement la connexion qui est impossible, c'est la raison pour laquelle on nous interdit aujourd'hui encore de nous promener sans être guidés là-bas, parce que fondamentalement, rien n'a changé au niveau de l'essence de l'endroit, c'est simplement au niveau de la connexion avec cette essence que ça a changé. Et donc, la Shrina, c'est encore une fois non l'électricité, mais la connexion avec l'électricité, c'est-à-dire le temple, au niveau de l'endroit. Juste une petite parenthèse, qu'on a tellement de milliers de choses à dire aujourd'hui que je vais très très vite. Je vous ai déjà expliqué que le monde a été créé selon le principe de Hashan, l'espace-temps humain, c'est-à-dire que toute notion vraie au niveau de la Torah existe dans l'espace, existe dans le temps et existe dans l'homme. Très brièvement, à titre d'exemple juste, ce que je signifie quand j'ai exemple, qu'il y a énormément plus à dire que ce que je vais dire, qu'au niveau de l'espace, l'interrupteur, donc traduction Shrina, s'appelle le temple. Au niveau du temps, l'interrupteur, la Shrina, s'appelle le Shabbat. Et au niveau de l'homme, l'interrupteur s'appelle le Tzadik, le juste pilier du monde. Ça veut dire que dans l'espace, dans le temps et dans l'homme, il y a trois interrupteurs fondamentaux selon que tu cherches la lumière par l'homme, par le temps ou par l'espace. Et c'est grâce à cette connexion avec le toucher, avec ces interrupteurs-là, c'est-à-dire le toucher, tu rentres dans le temple, le toucher, tu fais Shabbat, le toucher, tu es en connexion avec le juste de la génération, c'est à ce moment-là que tu te connectes au divin et qu'à ce moment-là apparaît quelque chose. Le « apparaît », je ne l'ai pas encore défini. Je tiens malgré tout à préciser que ces trois interrupteurs-là ont malgré tout, on pourrait dire, une dilatation d'eux-mêmes. Par exemple, quand je dis pour l'espace, le temple, bien évidemment, la dilatation du temple, c'est l'ensemble de la terre d'Israël. Quand je parle, bien évidemment, de l'homme, du juste, mais de la même manière, il y a une dilatation du juste au niveau de tous les enfants d'Israël qui sont attachés à la Torah, qui sont une dilatation du juste et qui eux aussi servent d'interrupteurs. C'est ça le secret de Or Lagoyim. Que signifie le fait que les nations seront tôt ou tard obligées d'accepter que nous sommes Or Lagoyim, nous sommes la lumière des peuples? Pas que nous sommes la lumière, il n'y a qu'une seule et unique lumière au monde, c'est Hachem. Mais nous sommes l'interrupteur de cette lumière. Nous sommes la connexion de cette lumière. Il faut appuyer sur un juif pour avoir la lumière. La lumière, c'est pas le juif. Aucun homme n'a la lumière. La lumière, il n'y a que Dieu qui l'a. Hachem Orli. Dieu est ma lumière, dit David dans le psaume, si je ne me trompe pas, comme par hasard, je crois, 28. Kohar, si je ne me trompe pas. C'est lui qui dit ça. Mais pour atteindre cette lumière, il faut une shrina. Il faut un interrupteur. L'interrupteur, c'est Israël. Et les nations, depuis des millénaires, tâtonnent dans le noir pour essayer de trouver la lumière sans passer par notre interrupteur, ou s'imaginent qu'elles peuvent elles-mêmes se construire un interrupteur artisanal qui leur saute dans les mains et qui fait tout disjoncter à chaque fois, comme on le sait. Et après toute l'histoire et toutes les expériences malheureuses de l'histoire où le monde aura disjoncté je ne sais combien de fois parce qu'ils se refusent d'arriver au véritable interrupteur, ils finiront par comprendre qu'il n'y a qu'un seul et unique interrupteur sur Terre, c'est Israël et la Torah d'Israël. Donc, ça c'est un exemple de dilatation. Au niveau du temps, c'est pareil, c'est Shabbat, mais Shabbat se dilate. Toute journée d'un juif qui est aussi consacré à Hachem, ça veut dire par le fait qu'on fait des mitzvot tout au long de la journée, c'est une dilatation du Shabbat qui fait que même notre temps profane devient d'une certaine manière un temps interrupteur, un temps connexion. Donc on a véritablement, Baruch Hashem, défini ce qu'était la Shrina. Encore une fois, il ne s'agit pas de présence divine parce qu'elle est partout, mais il s'agit d'une connexion à cette présence, et ça c'est tout le problème. Alors, on a vu dans le texte hier, et on reverra ça la semaine prochaine, que au début, avant la faute d'Adam Harishon, maintenant ça nous donne une perspective complètement bouleversante de ce que le texte dit, « Ikar shrina batartonim haita », ce qui veut dire que l'essentiel de la connexion avec le divin avant la faute était précisément dans ce monde matériel. C'est de la folie pure. Ça veut dire que, surtout quand c'est nos maîtres qui le disent, surtout quand c'est ceux qui nous ont révélé qu'à part notre monde, il y avait une infinité de mondes plus spirituels les uns que les autres, qui très 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 schématiquement se divisent en quatre grandes catégories, mais que chaque catégorie contient elle-même une infinité de mondes et de sous-mondes et de surmondes et de tout ce que vous voulez. Mais fondamentalement, notre monde n'est considéré que comme l'extrémité la plus inférieure d'un ensemble inimaginable de mondes créés. Et voilà que nos maîtres affirment qu'avant la faute de Adam Harishon, Ikar Shrina Batartoni Maïta. Ça veut dire que de tous les mondes et de ces milliards et d'infinités créatures qui ont été créées, pas forcément évidemment avec un corps physique et matériel et charnel comme le nôtre, mais des créatures, ne serait-ce que les anges, il y en a bien sûr dans tous les mondes, et toutes ces créatures-là, cette infinité, cette population inimaginable, était d'une certaine manière dépendante de la connexion de l'homme charnel en bas dans ce monde. Quand lui se connectait, alors tout s'allumait dans tous les mondes. Et tant que lui ne se connectait pas, il n'y avait pas de lumière dans les mondes. Jusqu'à aujourd'hui, mes amis, nos maîtres font allusion à cette vérité de quelle manière? En disant que dans la Kedusha, lorsqu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la Tfila, les anges en haut ne peuvent pas dire Kadosh, Kadosh, Kadosh tant que Israël là-bas, en bas, n'a pas dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est connu, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, quelque chose de cette vérité transpire même au niveau de nos enseignements, comme quoi les mondes supérieurs et leurs services divins dépendent du fait qu'Israël, en bas dans ce monde matériel, soit le premier à servir, à ouvrir la porte du service. Et à ce moment-là, tous les mondes se mettent à servir. Il faut avoir un sacré toupet pour affirmer une chose pareille. Il n'y a que les Juifs pour dire une chose pareille. Que les mondes supérieurs et leur population angélique dépendent de notre service divin à nous, qui avons des coliques, qui faisons des rots, qui avons des problèmes de dos, de ci, de ça, etc. Que ça dépend de nous. Pourquoi ? Parce que Ikar Shrina Batartoni Maïta, parce que l'essentiel de la connexion se trouvait en bas, et même si aujourd'hui elle ne s'y trouve plus comme elle s'y trouvait à cause de la faute, et comme on expliquera tout au long de ces cours, mais malgré tout il reste un petit quelque chose de ça, comme d'ailleurs aujourd'hui. Il y a beau avoir ce qu'il y a aujourd'hui sur le mont du Temple, malgré tout, tout n'a pas disparu, comme je viens d'expliquer au début du cours. Alors maintenant, dans la deuxième partie du cours, on va rentrer dans l'explication de la manifestation shrinatique. Ça veut dire que c'est quoi une manifestation de shrina? Comment je peux savoir que je suis connecté? Est-ce que ça veut dire que tout d'un coup je vais me mettre à avoir des visions et je vais me mettre à entendre des voix? Et ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je deviens un prophète? Je pose une question très sérieuse. Est-ce que la connexion signifie que tout d'un coup je me mets à prophétiser? Est-ce que la connexion signifie que tout d'un coup j'ai des anges d'énergie spirituelle qui viennent se coller à moi et je m'envole, et je deviens gentil? Ça veut dire quoi? Vous comprenez? C'est quoi la connexion? Alors on va voir comment nos maîtres définissent la connexion, définissent la shrina, et je vous laisse découvrir. On est dans le Zohar Parchat Pinchas, dans les éditions du Matok Midvash, c'est à la page 376, et je lis. Amar Raya Me'imna, le berger fidèle nous enseigne. Qui est le berger fidèle dans le Zohar? Moshe Rabbeinu. L'âme de Moshe, comme on le sait, se révélait à Rabbi Shimon Bar Yochai. Un bon tiers, si pas plus, des enseignements les plus profonds du Zohar ont été dictés, révélés à Rabbi Shimon Bar Yochai par l'âme de Moshe Rabbeinu lui-même. Et par respect, Rashbi appelait ce dévoilement venant de l'âme de Moshe, Raya Me'imna, en araméen, le berger fidèle, puisque c'est le plus grand, le plus bon, le plus extraordinaire de tous les bergers qui nous ont guidés. Et donc, il dit la chose suivante. Daseudata deshrinta, c'est que de l'araméen, je traduis. Daseudata deshrinta, sache que la shrina porte sur chacun d'entre nous un témoignage. Ça veut dire que tout de suite, Moshe Rabbeinu nous prévient. On ne peut pas se tromper si oui ou non on est en connexion avec la Shrina, parce que la Shrina elle-même va témoigner de cette connexion. Ça veut dire que tant mieux pour nous, parce que sinon on pourrait vivre dans des illusions et se mettre à entendre des voix et avoir des visions et puis devenir n'importe qui et n'importe quoi. Donc, Moshe nous dit que sache qu'on a un point de repère pour savoir si véritablement on est en état de connexion. Et il explique, premier niveau d'explication, des yissa duta de kaima alan, parce que sache que ce témoignage de la shrina se trouve constamment sur nous, vesaidat alan kame malka, et le témoignage est parce que la shrina t'amène devant le roi. T'amène devant le roi. On n'a encore pas expliqué grand chose, mais on évolue dans l'explication. Moshe explique que la Shrina, son témoignage, c'est parce qu'elle t'amène devant le roi. Ça veut dire que si elle juge que tu es apte à te connecter, alors elle te place devant le roi. Kame Malka. Tout le monde comprend à un niveau très 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 simple, d'ailleurs ce qui est extraordinaire, c'est peut-être à ce Zohar que fait allusion, la toute première halakha du Shulchan Arour. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Arour dès le premier saïf, dès la première annotation du Shulchan Arour? Qu'est-ce qu'il nous dit? Un homme doit toujours se rappeler qu'il se tient devant le roi, parce qu'il est absolument évident qu'un homme ne parle pas devant le roi comme il parle comme quand il est seul ou avec ses proches. Un homme ne s'assit pas devant le roi comme quand il est seul ou devant ses proches. Un homme ne se comporte pas devant un roi comme quand il est seul ou devant ses proches. Et le Shulchan Aruch conclut en disant, c'est ce à quoi faisait allusion le roi David lorsqu'il disait « Shiviti avaye le negdi tamid » tout le temps je voyais avaye qui était en face de moi. Donc c'est évident que se sentir devant un roi rehausse totalement l'être. Il ne parle plus de la même manière, il ne se comporte pas de la même manière. C'est évident que le fait de se sentir devant un roi fait émaner sur moi quelque chose de royal. Puisque comme disent nos maîtres, Avda de Malka Malka, le serviteur d'un roi est lui-même un roi. Donc quelque chose de royal qui se dévoile dans celui qui se connecte à la Shrina. Ils se sont constamment en présence d'un roi. C'est évident que ce genre d'homme est très 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 loin d'imaginer qu'il puisse descendre d'un singe. C'est absolument évident. Pourquoi ? Parce qu'il n'est il est pas dans la jungle, lui. Il est dans un palais, face à un roi. On continue. Regardez. Hiyi Saita Dishmaya. Une autre manifestation de la Shrina, et c'est celle qui va nous intéresser, c'est que comment un homme peut sentir qu'il est connecté quand il sent qu'il reçoit constamment une aide qui vient d'en haut. Une Saita, une aide. Comme une force qui tout d'un coup se pose sur lui et il sent que son évolution, que dans la réalisation de ses projets, dans son vécu, quelque chose qui ne peut pas être expliqué uniquement par son intelligence, par sa volonté, par son savoir-faire, par le temps qu'il investit, il sent que quelque chose d'ailleurs vient, se connecte à lui et le sort de la norme, le sort de la normalité. Tiens, on continue. Et regardez ce qu'il dit. Après, il apporte un verset. Et là, on commence à rentrer plus. Moshe va doucement avec nous. D'abord, il nous parle que c'est le sentiment de se tenir devant un roi. Après, il explique que c'est la sensation d'être porté par une force qui vient de ce qu'on appelle d'en haut. Saita Dishmaya. J'ai pas traduit, je ne traduirai pas en français parce que sinon on va dévier du sens profond du texte. Pour ceux qui comprennent l'araméen, c'est très proche de l'hébreu, vous avez compris ce que ça veut dire, Saita Dishmaya, mais je traduis d'après le sens, c'est-à-dire une aide qui vient d'en haut. Ça veut dire que l'homme, encore une fois, ressent qu'il ne peut pas expliquer son évolution uniquement par des facteurs qui sont rationnels. Il sent que quelque chose le prend et le porte. On continue. Maintenant arrive l'explication troisième niveau. Etan Moshavera, celui qui se tient avec force et détermination. Etan, c'est quoi Etan en hébreu moderne? C'est très fort. Je me demande si d'ailleurs le mot en français l'étain ne vient pas du mot hébreu Etan. L'étain est un métal très très fort. Et donc Etan, c'est plus que force. Etan, c'est, on pourrait dire, c'est puissance. C'est quelque chose de très 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 fort, Etan. Même en hébreu moderne, quand on veut dire que quelque chose est pratiquement indestructible, alors on dit Etan, éteint. Et c'est un verset dans Bamidbar, dans le quatrième livre, qui dit Etan, écoutez bien ça, Etan Moshavera. Lorsqu'un homme est Moshav, Yoshev, lorsqu'un homme se tient avec une détermination d'airain que rien ne peut le faire bouger. Vesim basela kinera, et qu'il pose, il fait son nid dans le roc. Comme on va voir à quoi fait allusion, il fait son nid dans le roc. Ça veut dire que là où il est, là où il fait son nid, comme on dit en français, là où il s'installe, il est comme dans le roc. Vei shrinta, ça c'est la preuve que cet homme-là est en connexion avec la Shrina. On n'a pas fini. Ve'aleitmar, et c'est sur un homme pareil qu'il est dit, Kanesher Yair Kino. Lorsque l'aigle, le grand aigle, voit ce genre de nid qui est accroché, étane, avec puissance, Bessela, dans le roc, alors le grand aigle dit, ce nid il est pour moi. Le grand aigle, c'est qui bien sûr? C'est la Shrina. L'aigle ne peut pas se poser n'importe où, surtout, comme explique ici Gozla Vierachef, il ne peut pas laisser ses petits-enfants partout. Donc il cherche un nid qui est solide, qui est fort, qui est protégé, un nid où il peut laisser ses enfants en toute sécurité. Donc l'aigle cherche un endroit où il pourra y faire son nid. Lorsqu'il trouve ce genre de nid solide et fort, à ce moment-là, il y pose ses enfants. C'est quoi ces enfants? Ben, c'est bien sûr les étincelles de Shrina qui se posent sur celui qui est à ce niveau-là. Regardez, on continue. Umay vesim besela kinecha. Moshe veut comprendre plus profondément encore à quoi fait allusion le roi David lorsqu'il dit, parce que c'est David qui dit ça, ça pouvait être que David bien sûr, qui comme lui est un rocher indestructible. Vesim besel akimecha. Qu'est-ce que veut dire, à quoi fait allusion David lorsqu'il dit que tu dois faire de ton nid un roc, un rocher? Aela amar David. C'est ce à quoi faisait David dans un autre verset où il parle aussi du roc, du rocher, où il dit « Avaye sal'i, Dieu est mon roc, ou metsudati, et il est ma forteresse. » Donc on continue à avancer, Shrina fait allusion à force, Shrina fait allusion à solidité, Shrina fait allusion à puissance. Mais quoi, où, quand, qu'est-ce, comment? Quand tu te bats à la guerre, dans ton bureau, quand tu fais des affaires, dans quoi? Parce que la force, elle se manifeste dans beaucoup, beaucoup de choses. Un soldat, un commando, il est extrêmement puissant. Un homme d'affaires redoutable est extrêmement puissant. Un dictateur est le plus puissant de tous. Regardez Assad aujourd'hui, quelqu'un peut se mesurer à sa puissance. Dans le mal, on trouve aussi des puissances inimaginables. Donc, c'est quoi? Dans quoi on parle de puissance? Et là, il dit, Tana, écoute l'explication. Dehiyu be'alacha takifa kasela. Celui qui est capable de se tenir dans la halacha avec la solidité d'un rocher, je vais traduire tout de suite halacha bien sûr, mais je continue, puisque la plupart d'entre vous ont compris, delit patish yachil et patsetsa, que aucun marteau au monde, aucun, plus que des marteaux, aucun bulldozer, ne peut faire éclater Bechol Kushyan de Alma, même si toutes les questions, toutes les contradictions du monde lui tombaient sur la tête, rien ne peut le faire bouger dans la halakha, dans le chemin de vérité qu'il s'est choisi. Il doit être comme un rocher que si on lui faisait tomber sur lui tous les marteaux, tous les bulldozers de la terre, on n'arriverait pas à le faire bouger. Ça, c'est la Shrina. Et là, c'est déjà une définition extrêmement forte. Pourquoi? Parce que la force physique, c'est pas encore ça. La force de l'envie, c'est pas encore ça. À quoi je fais allusion très schématiquement? Le soldat a une force physique énorme.
Mais limitée.
Mais limitée. L'homme d'affaires, l'envie de gagner, l'envie de... La force est très forte, mais limitée. Le dictateur, ça reste encore une fois dans des choses qui sont physiques, qui sont au niveau du désir, de l'envie, parce qu'il est accroché à la grossièreté de ce monde. Il ne veut pas lâcher prise. Mais celui qui a commencé à aller dans un chemin de vérité, puisque c'est ça la halakha, la traduction halakha, je ne sais pas comment traduire en français, je ne veux même pas qu'on traduise en français, mais tout le monde sait ce que ça veut dire halakha. La halakha, Shulchan Aruch. Mais pourquoi on appelle ça la halakha? Parce que c'est tu vas. D'ailleurs, je me suis fait remarquer que, d'ailleurs, que le mot aller en français, c'est la traduction du mot halakha. Sauf que le raf de halakha, ils l'ont transformé en R. Et il n'est pas prononçable. Aller, c'est halakh. Le raf est devenu R. Mamash est le même mot. Et donc, c'est aller. À partir du moment où tu as pris sur toi d'avancer dans un chemin de vérité, tu dois être comme un Sela que rien ne peut faire sauter. Juste à titre d'exemple, d'accord? S'il y a un peuple sur terre, un, et seulement un, et pas un demi-autre, qui peut hautement et fièrement dire « Nous, on est le peuple de la Shrina », c'est bien Israël. Le plus petit, le plus minuscule des peuples, dispersé aux quatre coins de la terre, une brebis coupée en quatre, et à chacun des quarts de la brebis, on l'a donné à des loups qui n'ont pas arrêté de nous dévorer. Combien de millions d'entre nous, combien nos fils, nos filles, nos femmes, nos pères, nos mères, et on est toujours là en première page des journaux pour enseigner la Torah au monde entier. Ça, c'est le peuple de la halakha. Rien ne nous a fait changer de ce qu'on a reçu. C'est pas pour rien que c'est Moshe qui nous révèle ça. Qui comme Moshe savait combien d'imposteurs viendraient après lui pour parler de nouveau ou de ci ou de ça et on n'a plus besoin de l'ancien et tout ce que vous voulez? Combien de sabres seraient posés sur nos nuques pour qu'on abandonne sa Torah à lui? Qui comme nous a traversé l'histoire et n'a pas bougé et ne bougera jamais? Ça, c'est la Shrina. Oui, la Shrina est connectée à Israël. Mais d'un autre côté, ça doit être vrai aussi pour chacun d'entre nous. À partir du moment où tu prends sur toi quelque chose que tu as compris que c'est la vérité, comment je vais savoir que je l'ai compris connecté à la Shrina, quand vont s'abattre sur toi toutes les questions possibles et inimaginables pour te casser, que tu vas dire « je fonce et j'avance », c'est la preuve que tu es connecté à la Shrina. De là, on comprend aussi, je vais le dire presque sous la forme d'une blague, mais c'est la blague qui va nous faire comprendre ce que ça veut dire. La question toujours naïve, idiote, mais combien de fois posée? Je ne comprends pas. Quand je ne faisais rien, tout allait bien. Maintenant que je me rapproche d'Hachem, j'ai que des problèmes. Mais c'est évident. Parce que, justement, on est en train de voir si tu mérites de te connecter à la Shrina. Or, quand tu veux tester la solidité d'un roc, c'est pas en posant des roses dessus. Non. C'est en prenant un marteau et en tapant dessus. Et là, tu peux dire, ça, c'est une bonne pierre. Allez, une pierre de plus pour construire quoi?
Le temple.
Chaque vie éprouvée qui n'a pas bougé d'un cheveu est une des futures pierres du troisième temple. Nous sommes les pierres du troisième temple. Vous comprenez maintenant pourquoi Daniel, à quoi il faisait allusion lorsqu'il voit cette fameuse statue qui a quatre parties, qui représente les quatre exils d'Israël. Et les pieds sont un mélange de fer et d'argile qui fait allusion à l'union finale entre Ishmaël et Esav, qui se réunissent. L'argile, c'est Esav, et le fer, l'argile, c'est Ishmaël, comme on le sait, et le fer, l'industrie, c'est Esav. Ils se mélangent parce qu'ils veulent nous piétiner en fin d'histoire. Voyant chacun que seuls ils n'ont pas réussi à nous piétiner, ils pensent qu'en se mettant ensemble, ils arriveront. Et tout d'un coup, une pierre sort de nulle part et tombe sur le pied et fait tomber la statue. C'est quoi la pierre? C'est chacun d'entre nous connecté à la Shrina. Rien ne peut nous faire bouger. Nous sommes le peuple de la Shrina. Et donc automatiquement, c'est cette pierre qui fera tomber la statue. Donc comment Moshe définit ce que c'est la Shrina? Comment peut-on savoir qu'on est connecté? Lorsque tu t'accroches à une vérité, avec toute la force du Sela, du rocher indestructible, et que toutes les questions du monde, c'est-à-dire que toutes les contradictions et toutes les épreuves tombent sur toi et tu ne bouges pas, c'est la preuve que tu es connecté à la Shrina. Sinon, tu n'es pas connecté à la Shrina. Voilà la définition. Comment ?
À partir de la bride, on est connecté ?
Disons, potentiellement, effectivement, c'est juste que la Shrina, disons, voilà, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je dirais que le système est mis en place, c'est-à-dire que tout est là, l'interrupteur, l'électricité qui est dans les murs, tout est là avec le fait de naître juif et surtout d'être circoncis, mais après il y a malgré tout ton travail personnel dans la nuit de tâtonner jusqu'à ce que tu trouves l'interrupteur. Et après, de faire attention que rien ne vienne le casser. Parce que, effectivement, toutes les fautes que la Torah nous interdit de faire sont autant de mauvais coups sur l'interrupteur qui font que, après, on ne pourra plus se connecter. C'est ça le secret véritable de la faute de Karet. La fameuse faute qui opère une coupure. De quelle coupure parle-t-on? Eh bien, de la coupure d'avec l'électricité. C'est-à-dire que l'interrupteur est mort. Et n'y mets surtout pas tes doigts parce que tu vas disjoncter. Tu n'as plus d'interrupteur, il faut le reconstruire, ce qui est la tchouva. Donc, il y a une potentialité parce que nous sommes le peuple de la Shrina. Et après, il y a un travail personnel de trouver l'interrupteur et après, surtout, de faire attention à tous les ennemis qui veulent te détruire ton interrupteur pour t'empêcher cette connexion. En tous les cas, c'est un texte qui est extrêmement important. On a donc compris ce qu'est la Shrina. La Shrina, encore une fois, n'est pas la prophétie. Ce n'est pas des visions. Ce n'est pas un sentiment même réel de devenir meilleur. Tout ça, ce sont aussi des forces spirituelles. Mais la Shrina, la véritable Shrina, c'est une connexion avec une force inimaginable qui fait que rien ne peut te faire bouger dans le choix que tu as fait avec la vérité.
Alors Moshe, il n'avait pas la Shrina.
Pourquoi?
D'abord, si que l'homme a considéré comme un roc, le bon Dieu lui a dit, tu parles à un roc, il a battu le roc. Il avait des doutes, il n'est pas rentré en Israël. Ça veut dire qu'avec tout
si
ça,
j'étais méchant, tout ça, si j'étais méchant, je dirais
méchant.
Vous avez... Non, non, moi, si j'étais moi méchant, pas vous, je dirais vous avez raison. Et si j'étais un petit peu intelligent dans cette méchanceté, je dirais effectivement, vous mettez le doigt sur la notion cœur, âme, fondamentale, colonne vertébrale de toute la Torah. Tous les justes authentiques tendent vers la vérité, presque l'atteignent à la perfection, mais il manque toujours un petit quelque chose qui est en vérité une muraille sécuritaire pour les empêcher de se prendre pour
Dieu.
C'est toujours la même réponse. C'est dans cette perspective que je vous demande, une fois pour toutes, de comprendre comment nos maîtres nous ont expliqué la signification de ces imperfections au niveau de nos géants. Parce que toutes les autres religions sont tombées dans le piège de l'homme-dieu, de l'intouchable. Comment tu as osé dire? Comment tu as osé parler? Parce que ce sont toutes des religions idolâtres qui ont idolâtré l'homme, qui ont idolâtré ce monde au détriment du maître du monde. Israël, pour pouvoir se préserver de cette erreur, on pourrait dire incontournable de toutes les religions, nous présente des personnages presque parfaits. Et le presque est la garantie de la perfection. C'est parce qu'il est presque qu'il est parfait. Justement parce qu'il n'est pas 100% parfait, il est parfait. C'est pas seulement un jeu de mots, c'est extrêmement profond. Donc effectivement, on s'apercevra par exemple, mais ça je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, que généralement tous les grands d'Israël, ou tous les grands personnages bibliques, ont toujours eu une imperfection dans le domaine qui était précisément... leur perfection. Et ça, on va encore le voir cette semaine dans le cours de Chumash. Qui est plus fort, plus déterminé, plus imbougeable que Moshe? Moshe, évidemment. C'est un roc, Moshe. Il faut le faire de tenir tête à Pharaon. Comme on va le voir encore cette semaine dans le cours de Chumash. C'est un roc, Moshe. Et c'est précisément dans ce domaine qu'il aura une faute avec un rocher. Justement, c'est cette faute qui le garde homme. Et qui l'empêche de disjoncter, de nous faire disjoncter dans toutes les puanteurs d'une religion qui transforme l'homme en Dieu ou Dieu en homme. Et justement, donc, c'est toujours dans le domaine de sa perfection qu'on trouve, on pourrait dire, cette imperfection qui est le garanti de ce qu'il a œuvré, tout ce qu'il a fait toute sa vie. On continue. Je veux juste maintenant, à titre d'exemple... vous montrer, et ce que je vais faire maintenant se reproduit des dizaines de fois pratiquement au niveau de tous les personnages du Tanakh, les Shoftim comme Shimshon, etc., etc. On l'avait déjà vu, mais comme ce n'était pas le moment, notre œil et notre oreille n'ont pas capté véritablement le message, puisque ce n'était pas le moment. Comment la Torah parle justement de ce rouar qui se pose sur ceux qui sont choisis? Prenons l'exemple du roi Shaoul, où on a une démonstration pas mal là-bas de ce que je vous expliquais. Vous savez que tout de suite après sa rencontre avec Shmuel, quand Shmuel l'a oint, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel l'a oint, et qu'est-ce qui s'est passé? Juste un instant... Voilà, ici. Donc, peu importe, on l'avait déjà vu ce verset, Shmuel le prévient, dès que tu seras oint, Vetzalcha alecha ruar avaye. Tzalcha motamo réussira sur toi, Tzalcha milachon atzlacha, réussira sur toi le ruar d'avaye. Regardez comment nos maîtres expliquent l'expression Vetzalcha. Shetatzliach alecha ruar gvura, réussira sur toi un souffle de force. Shelapshato ruar gvura, il va se sentir comme habillé, comme entouré d'un ruar de force. Sheleachar shenimchar, dès qu'il sera oint. Et c'est ce que dit le verset un peu après. Un autre endroit, par exemple, Lui, une fois qu'il était déjà devenu roi et qu'il a entendu qu'un peuple X attaquait Israël, il est dit « Va titzla ruach Elohim el Shaoul ». C'est posé, mais mot à mot, a réussi sur Shaoul un rouard d'Elohim. Béchamo et Tadvarim Aïle, lorsqu'il a entendu que Israël s'était fait attaquer au nord, va yichar apomeod, et il a éprouvé une très 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 grande colère. Et qu'est-ce que disent nos maîtres, une fois nouveau, va titzla ruach Elohim, ruach gevura, un souffle de puissance, de force. C'est plus ou moins ce que disent tous nos commentaires. Maintenant, David dit, avar alav ruach godel levav. Il a senti que le souffle dilatait son cœur, ugvura, pour y faire rentrer une force absolument incroyable. Bekitsour, et ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'expression, et telle qu'elle est expliquée, est constamment dit au niveau des dirigeants, on pourrait dire, forts d'Israël, c'est qu'à chaque fois le ruach avayé, donc cette connexion avec le souffle, c'est une connexion de force. C'est intéressant, c'est extrêmement puissant, c'est le cas de le dire. Parce que justement, à la différence d'autres religions où la connexion avec Dieu se traduit plutôt par une sorte d'angélisation de l'homme, ici, pour nous, à Israël, la connexion avec Dieu, qui est la connexion de Shrina, se traduit par une force. Maintenant, vous comprenez pourquoi, avant la faute d'Adam Arishon, Ikar Shrina Batartoni Maïta. Mais ça devient maintenant 1 plus 1 égale 2. Quel est le monde de tous les mondes où l'homme a besoin vraiment de force? Eh bien, dans ce monde. Dans les mondes spirituels, on a besoin de force. Il y a des combats là-bas. Il y a des ennemis. Il y a des guerres. On a besoin. Il y a des épreuves. On sort d'Auschwitz en haut. On n'a pas de problème spirituel là-haut. Tout est clair. Là où il y a toutes les questions du monde, mais où était Dieu, où est-il? Ces questions ne se posent qu'en bas. Alors comme le maître du monde n'est pas le bon Dieu pour rien, il respecte le nom qu'on lui a donné, et il a donné justement la possibilité aux êtres humains d'en bas de recevoir de lui les plus grandes forces possibles. Les anges n'ont pas besoin de ces forces-là. Parce que les anges n'iront jamais à Auschwitz. Donc ils n'ont pas besoin de ces forces-là. Mais nous qui traversons sur terre ce que nous traversons, c'est absolument impossible sans des forces inimaginables. Donc on comprend très bien et très simplement ce que dit le Mahamar. Ikar Shrina Batartoni Maïta. C'est précisément là où tu attends le plus, où tu demandes le plus de l'homme, qu'il faut le doter des forces inimaginables. D'où, bien que ce n'est jamais à nous de juger, mais ça confirme cette explication, ce que nos maîtres nous disent, il n'y a pas d'homme sur terre qui ne reçoit pas les forces de l'épreuve qu'on lui fait subir. Ça n'existe pas. Maintenant, tu as vu quelqu'un tomber? Surtout ne juge pas. Puisque ne juge pas quelqu'un avant d'avoir été à sa place. Si lui il est tombé, toi tu aurais été déchiqueté, Birra, donc ferme-la. Mais malgré tout, nous devons savoir dans notre cœur que si Hachem éprouve, il donne la force. Parce que c'est ça le sort de Ikar Shrina Batartoni Maïta. Plus je te mets bas, plus je te donne des forces. Donc toi, pour toi-même, tu dois savoir que si tu n'as pas surmonté, si tu n'as pas traversé, il n'y a qu'un seul et unique responsable, c'est toi. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais la difficulté qui met à genoux l'homme, mais la manière dont il décide de s'en sortir. C'est ça qui décidera s'il traversera debout, à genoux, sur une civière ou enterré. C'est lui qui décide, mais pas la difficulté. Maintenant, ce qu'il faut comprendre la semaine prochaine, on n'a pas encore tout à fait fini, je veux juste vous expliquer quelque chose de très important, mais ce qu'il va falloir comprendre la semaine prochaine, c'est alors, qu'est-ce qu'on fait les fautes? Puisque rappelez-vous le cours d'hier, les fautes ont rejeté la Shrina de ce monde d'abord, et puis après on fait monter la Shrina très très haut. Ce qui veut dire qu'apparemment, la faute de Adam était d'une certaine manière une volonté de se débarrasser de cette force. Or, ça pose une question. Pourquoi veut-il se débarrasser de cette force? Il devrait être très content d'avoir cette force. Bien qu'on devine déjà plus ou moins tous la réponse. Pourquoi il voulait se débarrasser de cette force? Pourquoi ? Parce que je suis suffisamment fort pour l'avoir par moi-même. Parce que cette force qui s'appelle la Shrina, évidemment c'est une force incroyable, mais elle oblige un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'ailleurs. Et donc elle dérange. Pourquoi elle dérange ? Parce qu'elle m'oblige constamment à me mettre face à celui qui la donne. C'est pour ça que Moshe est très chacham, c'est un grand pédagogue. Comment qu'il a construit son explication ? La Shrina est celle qui te met face au roi. Et après, il dit, la Shrina te donne la force. Mais d'abord, elle te place face au roi. Où se situe la faute d'Adam Harishon ? J'en dis pas plus parce que pour réserver ça pour les prochains cours. Où se situe la faute d'Adam Harishon ? Eh bien, dans la première partie, il n'a pas voulu être face au roi. Je suis suffisamment grand pour me débrouiller tout seul. Mais ça, on verra. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, je veux juste expliquer quelque chose d'assez extraordinaire. Un petit peu de notion de Kabbalah, mais dont on aura besoin dans les prochains cours. Je vous ai dit qu'une manière tout à fait providentielle, absolument incroyable, on est aujourd'hui le Kohar, la force du mois de Tevet. Et le cours d'aujourd'hui ne parle que de ça, de force, et on va le montrer même à un niveau de la Kabbalah d'Israël d'une manière extraordinaire. Combien de fois je vous ai déjà expliqué ce qu'on appelle la décomposition du nom divin, Yudke Vavke, chaque lettre peut être décomposée, vous vous rappelez ce qu'on appelle le Milouï, on va le revoir aujourd'hui. Mais d'abord, il faut comprendre que l'homme, puisqu'on parle maintenant de la force de l'homme, puisque l'endroit essentiel où se dévoile la Shrina, c'est dans l'homme. L'homme, d'après nos maîtres, se compose de quatre parties fondamentales, qui sont, du bas vers le haut, la force de l'action, la force des sentiments, aimer, vouloir, désirer, haïr, la colère, ce sont des forces. L'action, évidemment, c'est une force. Tu ne fais rien comme ça. Tu veux faire quelque chose, il faut de la force. Donc, l'homme n'est que force. Force de l'action, force des sentiments, force de l'intelligence, je veux comprendre. Et la quatrième force dont est doté l'homme, c'est la force de la émouna, la force de la foi, la force de l'idéal, la force de la conscience, la force de la croyance, ce à quoi je crois, ce pourquoi je vis. C'est la émouna, d'après nous, dans notre tradition à nous. Quatre forces, il n'y en a pas une cinquième. Vous pourrez chercher, vous verrez. Fondamentalement, un homme complet, c'est quatre forces. Force de l'action, force des sentiments, force de la pensée, force de la foi. Maintenant, pourquoi quatre forces ? Nos maîtres disent que ces quatre forces, bien sûr, proviennent de la source de toutes les forces, qui est le maître du monde. Le maître du monde dont le nom, comme on le sait, a quatre lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. On pourrait consacrer des milliers de cours à démontrer que chacune des lettres du nom divin fait allusion à l'une des forces fondamentales. Mais très brièvement, le Yud, première lettre du nom divin, fait allusion à la force de la foi. Le premier E fait allusion à la force de l'intelligence. Le Vav fait allusion à la force des sentiments. Et le dernier E fait allusion à la force de l'action. Maintenant, on a donc compris le rapport entre les forces, les quatre forces de l'homme et les quatre lettres du nom divin. Maintenant, rappelons ce qu'on a expliqué. Nos maîtres disent que le nom divin peut se décomposer deux fois fondamentalement, c'est-à-dire que des quatre lettres, on va en faire apparaître d'autres et on va le faire deux fois. Rappelez-vous l'exercice, on l'a déjà fait 10 fois. Comment ? Par le génie de la langue hébraïque, où chaque lettre cache d'autres lettres. Le Yud cache 2 autres lettres, un Vav et un Dalet. Le Aleph, par exemple, cache 2 autres lettres, un Lamed et un P. Et vous avez compris le système, on a déjà consacré des dizaines de cours sur ce phénomène-là. Ce qui veut dire que l'hébreu est une langue absolument incroyable. Il y a la lettre visible et la lettre cachée, qui fait allusion, comme on l'avait expliqué dans des cours, que dans ce monde, tout a une partie visible et tout a une partie cachée. Si on fait apparaître une fois seulement les lettres cachées dans le nom divin, les lettres visibles sont au nombre de 4, Yud, Ke, Vav, Ke. On va faire apparaître une première fois les lettres invisibles. Le Yud, on va faire apparaître 2 lettres, Vav, Dalet. Le He, d'après la convention de nos maîtres, va faire apparaître 1 lettre, le Aleph. He, en toutes lettres, s'écrit He, Aleph. Le Vav va faire apparaître 2 lettres, Aleph, Vav. Sur le Vav, tu rajoutes un Aleph et un Vav. Et, encore une fois, un He. Hé Aleph, tu comptes le nombre de lettres que tu as obtenues? 10. Tu avais 4, tu obtiens 10. À quoi ça fait allusion? Nos maîtres expliquent, comme vous le savez, il y a fondamentalement 10 attributs divins. Ce qui veut dire que quand on regarde dans le détail ce que sont l'ensemble des forces spirituelles qui existent, on regroupe fondamentalement 10 forces qui correspondent aux 10 makot en Égypte, qui correspondent aux 10 commandements, qui correspondent aux 10 paroles de la création, qui correspondent aux 10 juifs pour faire un minyan, etc. Donc on obtient 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est au niveau du chiffre 4 uniquement, Yudke Vavke, on est au niveau des 4 forces, des 4 parties de l'homme qui sont l'action, les sentiments, la pensée et la foi. Mais quand on décompose une fois le nom divin, on arrive à 10 lettres. Les 10 lettres font allusion à l'ensemble des forces qui se trouvent dans ces 4 parties. Puisque justement, tu as décomposé, c'est-à-dire que tu as fait apparaître ce qui était caché. Et en faisant apparaître ce qui était caché, quand tu vas parler par exemple maintenant de la force de l'action, c'est un mot global, mais la force de l'action contient elle-même 10 forces. La force des sentiments contient fondamentalement 10 forces. La force de la pensée contient 10 forces. La force de la foi contient 10 forces. Ce qui veut dire que chaque structure a elle-même, à l'intérieur d'elle-même, 10 dimensions. C'est la première décomposition. Et nos maîtres nous disent, mais on peut décomposer encore une fois, une dernière fois. Imaginez, alors c'est plus compliqué parce que ça, il faut le passer sur un papier, mais faites-moi confiance. Lorsque vous prenez la première décomposition, c'est-à-dire Yod, Vav, Dalet, He, Aleph, He, Vav, Aleph, Vav et He, Aleph, vous décomposez chacune de ces lettres encore une fois, à titre d'exemple. Le Yod, Vav, Dalet décomposé encore une fois, vous prenez le Yod, vous l'aurez décomposé, Yod, Vav, Dalet, le Vav, Vav, Alev, Vav, Dalet, 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 la Tav, et ainsi de suite. Vous allez trouver une nouvelle rangée, 28 lettres. Koar. 28 lettres. C'est-à-dire que la décomposition de la décomposition du nom divin vous amène à 28. Comme par hasard, combien de lettres y a-t-il dans le premier verset de la Torah? 28. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashem, Et Haaretz, 28 lettres. Qui fait allusion à la deuxième décomposition du nom divin. Ça veut dire que tu as le nom divin non décomposé 4 lettres, nom divin décomposé une fois 10 lettres, nom divin décomposé 2 fois 28 lettres. On s'arrête là. À quoi fait allusion cette décomposition? Ce ne sont pas que des chiffres et des lettres. C'est bien sûr des codes qui nous permettent d'accéder à des messages. J'explique. À un premier niveau, on est au niveau du chiffre 4. C'est chacun d'entre vous et moi. Je dis vous et moi, je suis précis. On est tous des hommes qui vivons avec un potentiel d'action. Nous faisons tous les jours des choses et des bonnes choses. On a tous un potentiel de sentiments qu'on espère les meilleurs possibles. On se travaille tous les jours. On réfléchit tous les jours. Ce cours est là pour le prouver. Et on a tous un potentiel foi énorme. Très bien. Ok. Ça, c'est l'homme standard. C'est-à-dire au quotidien. Mais quand tout d'un coup survient une difficulté, ça ne suffit plus de rester au niveau du 4, parce que tu vas t'écrouler. Il faut que tu dévoiles les lettres cachées. Décodage. Il faut que tu ailles chercher en toi des forces nouvelles qui ne sont pas au quotidien. Première décomposition du nom divin. 10. Tu révèles les 10 forces. Mais ça, c'est au moment d'une épreuve qui elle-même est une épreuve standard. Mais quand tu as une épreuve qui est complètement hors norme, qui ne fait plus partie du standard, même la première décomposition ne te suffit pas. Il faut que tu arrives à la deuxième. 28. Seulement celle-là est la valeur numérique du mot Kohar, force. Ça veut dire qu'au plus profond de l'âme juive, c'est ça l'allusion de la décomposition, se trouve caché un potentiel kohar, un potentiel de force inimaginable qui ne peut se dévoiler qu'au moment de l'extrême urgence de l'épreuve ponctuelle qui est loin d'être commune et standard. À ce moment-là, sache que tu as au plus profond de toi ce kohar. Et ce kohar-là, c'est la shrina qui est enfuie au plus profond de nous. C'est à ce moment-là, comme explique Moshe Rabbeinu, Ethan, c'est à ce moment-là que tu as la preuve que tu es connecté à la Shrina. Lorsque tu arrives à ce moment où le standard de tous les jours ne suffit plus, les quatre lettres, même un premier niveau de rechercher en soi des forces, 10, ne suffit plus non plus, tu dois aller fouiller au plus profond de toi quelque chose qui ne se dévoile qu'à ces moments uniques dans l'existence, 28 lettres Kohar. À ce moment-là, tu es connecté à la Shrina.
Si on ne s'y connecte pas, on ne passe pas
l'épreuve. Et si tu ne te connectes pas, personne, tu ne passes pas l'épreuve, personne ne peut te juger, mais d'un autre côté, si tu es honnête, quand tu auras la possibilité de réfléchir à ce qui t'est arrivé et aux raisons profondes qui ont fait que ça n'a pas réussi, que tu n'as pas réussi, pardon, tu arriveras à la constatation que finalement tu avais cette force en toi, mais tu ne t'es pas donné la possibilité de la dévoiler véritablement. Et donc ce kohar se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est la raison aussi pour laquelle, comme on le sait, on est doté de deux bras, et qu'en hébreu, comme vous le savez, bras se dit yad, et deux fois yad, ça fait combien ? 28 aussi, puisque c'est deux fois 14. Et c'est la raison pour laquelle donc ce kohar est représenté dans le corps humain par ses deux bras, pour dire que finalement, de la même manière que tu as deux bras au niveau de ton corps, sache que tu as deux bras au niveau de ton âme. C'est les fameux bras qu'on voit en ce moment dans les parachutes, Yad Achazaka, Yad Agedola à droite et Yad Achazaka à gauche. C'est ces fameuses deux mains dont on parle constamment dans le récit de la sortie d'Égypte. Donc, le corps est créé avec ses deux mains pour nous rappeler que, bien évidemment, aussi l'âme a ses deux mains, qui est donc cette connexion avec la Shrina. Juste, je termine en rappelant aussi que c'est aussi la raison pour laquelle David a pour valeur numérique 14, qui fait allusion à une main, et c'est la raison pour laquelle dans les prophètes, le Mashiach s'appelle aussi, lui aussi, comme on le voit dans Ézéchiel et d'autres, « Ve David Avdi, et David mon serviteur sera à la tête de mon peuple lorsque Ephraïm et Yehuda seront réunis », qui fait allusion, comme on le sait, à la délivrance finale. Pourquoi le Mashiach s'appelle David à ce moment-là ? Parce que David a pour valeur numérique aussi, une fois de plus, 14, et David et Mashiach, les deux David, c'est Kohar, c'est-à-dire que le Mashiach vient pour dévoiler dans ce monde à chacun d'entre nous ce Kohar, cette force inimaginable qui se cache en lui, et qui fait que rien ne peut le faire bouger, et que dans les moments de difficulté, il arrive à traverser tous les obstacles qui sont devant lui. Donc on commence maintenant à comprendre ce que c'est la Shrina. C'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose de spirituel, vaseux, et qui ne représente rien que nos fantasmes et nos illusions. La Shrina est une véritable réalité, c'est une force qui accompagne l'homme. C'est pour ça que Moshe l'appelle un témoignage, parce que personne ne peut mentir. Tout le monde peut dire j'ai entendu des voix. Tout le monde peut dire Dieu s'est dévoilé à moi et m'a dit que. Le monde est rempli de ce genre de foutaises et de charlatans. Mais un homme fort, un homme puissant, qui justement dans la réalité arrive à traverser l'adversité, justement par la puissance de sa foi, ce genre d'hommes témoignent sur eux-mêmes qu'ils sont véritablement connectés, bien sûr, à la Shrina. Et comme on l'a dit, aucun peuple sur terre, aucune religion au monde ne peut venir dire qu'elle est connectée à la Shrina autant, je ne dis pas connectée, mais autant qu'Israël, puisque aucun peuple et aucune religion sur terre n'ont été éprouvés comme la nôtre et ont pu donc prouver au monde entier que nous étions véritablement jusqu'à aujourd'hui encore le peuple de la connexion. J'oserais presque dire, mais surtout ne me lapidez pas quand je vais dire une telle énormité, j'oserais presque dire que, une fois que ça s'est passé, on peut presque dire que, s'il y a bien la preuve irréfutable que nous sommes jusqu'à aujourd'hui le peuple de la Shrina, c'est bien le fait qu'on est sorti d'Auschwitz, on est toujours là. Ce que les chrétiens n'ont jamais traversé, parce que c'est eux qui nous l'ont fait traverser, ce que l'islam n'a jamais traversé, ce que aucun peuple, ni les Chinois, ni les Hindous, ni personne, ni en Afrique, personne n'a traversé ce que nous avons traversé, et nous sommes toujours là, c'est bien la preuve que nous sommes le peuple de la connexion avec la Shrina.
Sur la terre aussi.
Mais là, c'est le là, le véritable là, le là, 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 le là, là, le vrai là, là. Amen, vechen yirat.